Effectivement, oui, vous êtes à l'honneur des Hivernales de la Danse 2024 à Avignon, puisque demain, ici même, dans cette chapelle des Pénitents Blancs, on va découvrir Canti. Alors avant de parler de la chapelle, du vieux, et puis de Canti, de ses chants, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous. Alors si j'ai bien lu, vous avez été danseur avant d'être chanteur.
C'est relativement exact. En fait, j'ai plutôt commencé par le chant quand j'étais enfant. J'ai intégré le chœur d'enfants de l'Opéra de Paris. Et puis après la MU, effectivement, je suis venu à la danse. Je me suis d'abord formé en danse contemporaine au CNSM de Lyon. J'ai travaillé comme interprète 4-5 ans en compagnie. Et puis je me suis formé en chant lyrique au Centre de musique baroque de Versailles notamment. Et depuis 2015, j'alterne les productions lyriques et les productions chorégraphiques.
Dites après la MU, je me suis consacré à la danse. Est-ce que ça signifie que la modification de la voix vous a incité à mettre le chant de côté ?
Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté un contexte très professionnel et très hors du commun, qui était le chœur d'enfants de l'Opéra de Paris et ses productions à l'Opéra Bastille, à l'Opéra Comique, etc., Garnier. Et puis, je me suis retrouvé avec le chœur adulte qui appartenait à cette structure-là, à la maîtrise des Hauts-de-Seine, mais c'était un chœur amateur. Et donc, c'était assez vertigineux comme changement d'environnement, d'exigence et de proposition. Et à ce moment-là, j'ai laissé le chant parce que tel quel, ça ne m'intéressait plus. Jusqu'à le retrouver, quand j'étais au CNSM en danse, grâce à l'UV d'ensemble vocal qui est ouvert en fait à tous les étudiants, chanteurs ou non. Et ça m'a permis de renouer avec le chant à ce moment-là, pendant mes études de danse.
Lorsque vous étudiez le chant, est-ce que la danse était déjà un petit peu dans le coin de votre tête ?
Pas du tout. Non. Je suis venu à la danse à l'âge de 16 ans et demi. Par imitation de ma sœur qui dansait beaucoup dans notre salon, la salsa et le hip-hop. Et ça m'a donné envie, j'ai fait des cours d'essai, des cours privés. Et puis je m'y suis trouvé bien et c'est à ce moment-là que ça a commencé.
Alors ici même, au Pays-Bas, nous allons découvrir votre dernière création, c'est Canti. C'est une proposition qui réunit des danseurs, des chanteurs, des instrumentistes, une plasticienne, un éclairagiste et un costumier. Et il y a un mot que vous utilisez dans la note d'intention, c'est le terme « communauté ». Je vous ai découvert comme interprète à la Fabrica. C'était en 2022, à la fin du Festival d'Avignon, vous étiez autour ou à l'intérieur ou au-dessus du Tumulus, ce spectacle imaginé par François Chaignon, où là aussi, finalement, il était question de communauté.
Oui, c'est vrai. Tumulus, c'est une expérience de groupe très forte, où on a dû mettre en place une pratique commune du mouvement et de la voix, avec un effectif très hétérogène au départ de danseurs et ou de chanteurs. Et donc ça a tissé des liens très forts entre nous qui sont venus quelque part soutenir l'écriture au plateau. Et donc cette idée de la communauté, on l'incarne fort dans Tumulus. Elle se retrouve dans Canti, mais c'est pas particulièrement un prolongement. C'est plutôt quelque chose qui s'est présenté dans le travail. En fait, quand on chante et qu'on danse tous à l'unisson, on revit quelque chose qui existe depuis longtemps dans la culture, et en particulier dans la culture populaire, mais aussi dans le théâtre antique. C'est l'incarnation du cœur, le cœur qui représente la communauté et ce par quoi elle est traversée.
J'avais assisté à une présentation de votre spectacle l'an dernier. Vous aviez également des références picturales. Il y avait notamment, je crois, le nom de Francis Bacon qui avait été évoqué. Et j'ai vu que dans votre travail, dans le travail de votre compagnie, il y avait quand même des liens très réguliers avec la peinture.
Tout à fait. Mon lien à la peinture, il est d'abord amoureux. C'est-à-dire que j'ai rencontré en 2009 Nadia, qui est devenue ma femme, qui était alors étudiante en dernière année aux Beaux-Arts de Rennes, et qui m'a demandé de participer à son projet de fin d'études pour son master. Et à ce moment-là, on a noué d'abord une relation de travail très forte autour du mouvement et de l'expression du mouvement dans les arts plastiques, on va dire. On s'est retrouvés comme ça ponctuellement quelques fois jusqu'à ce qu'elle emménage à Paris en 2013, à un moment où j'y étais moi-même. Et ça nous a permis de commencer à travailler régulièrement ensemble sur l'expression du mouvement à travers la peinture et le dessin. Et donc ça a fait l'objet d'une forme de recherche hebdomadaire pendant près de 2 ans, qui à la fois, moi, m'a vraiment sensibilisé à la force de la peinture, du dessin, éventuellement de la gravure ou de la sculpture en relation au mouvement. Et puis d'autre part, ça nous a permis de mettre au point une forme de langage où le mouvement existe à la fois dans la danse et au plateau, mais aussi dans ses propres réalisations à elle et sous un autre rapport, puisque la danse permet d'éprouver le mouvement, mais sur le vif. Et puis dès qu'on est passé à autre chose, c'est passé. alors que la gravure du mouvement dans Canti, qui est diffusée avec un dispositif de gobo, donc un dispositif lumière, la gravure du mouvement, elle le laisse exister dans le temps long de la gravure, et ça nous permet, nous, de l'éprouver autrement et de nous baigner dans ce qu'on perçoit de dynamique, de profondeur dans son travail.
Plutôt dire que dans Canti, tout se fait dans l'instant. C'est-à-dire que, bien sûr, on chante, on danse, mais la musique est également produite en direct. Et la gravure, parce que la gravure, c'est plus violent que la peinture. La peinture, le pinceau, il glisse. La gravure, on creuse au départ. La gravure, elle aussi, se fait par rapport aux mouvements qui sont sur le plateau.
Alors c'est exact, elle se fait par rapport à ce qu'on fait au plateau, mais elle ne se fait pas en live. Nadia réalise les gobos qui sont installés sur les projecteurs le jour même ou la veille, à partir de séquences qu'elle a beaucoup regardées, qu'éventuellement elle reprend en vidéo ou bien elle nous suit dans le travail.
Donc c'est très frais, si on peut dire.
Ah oui, c'est toujours très frais, et pour une raison très concrète, c'est que en fait, ce sont des gobos suie, c'est-à-dire qu'on dépose de la suie sur les plaques de verre, et elle vient creuser dans la suie. Alors vous disiez que c'était un acte violent, ça dépend de la nature de matériau dans lequel on grave. En l'occurrence, la suie, c'est extrêmement délicat. Donc ça n'est pas violent, ça s'apparenterait presque au dessin, même si effectivement on retire de la matière. D'autre part, la suie se dégrade très vite, notamment sous l'effet de la chaleur des lampes. Donc ça serait impossible de le conserver d'une représentation à l'autre. Et c'est aussi l'intérêt de ce procédé pour nous, c'est que ça permet que la gravure appartienne au spectacle vivant, qui est une notion de durée là-dedans, à cause de ce procédé, aussi parce que pendant la représentation, sous l'effet de la chaleur, en fait, la gravure elle-même, elle vit, parce que la suie réagit.
Au niveau du chant, là aussi, l'éventail est très vaste. Hein. On parle de la musique ancienne, et puis après, il y a quand même des fréquences répétitives qui sont quand même très très contemporaines.
Oui, c'est vrai. On va dire qu'il y a un peu deux pôles dans la production musicale de Canti. La première, c'est le répertoire de musique vocale dont je suis familier, soit par ma pratique de chanteur, soit parce que je l'ai entendu, et dans lequel j'ai puisé certains morceaux qui m'intéressaient. Et donc on a autant la polyphonie ukrainienne gréco-catholique qu'un lied de Strauss, une sorte de citation de Berlioz, pour donner quelque chose de non-exhaustif. Et d'autre part, il y a l'emploi du Juno, qui est ce synthétiseur analogique qui a été produit dans les années 80, qui a une palette de timbres très étendue, avec différents filtres qu'on fait jouer, et qui présente tout un tas de possibilités. Et ça a été, on va dire, l'autre point de départ de la production musicale de Canti, ce qu'on pouvait faire au Juno, ou plus précisément ce que Martial fait au Juno.
Au niveau de la respiration du chant, la respiration de la danse, c'est pas tout à fait la même, non ?
Non, c'est pas la même. À un certain point, on ne peut pas soutenir des choses très sollicitantes en chant en étant dans un mouvement de danse qui soit aussi exigeant, parce qu'on n'aurait plus la détente nécessaire au niveau du souffle, ni la longueur de souffle nécessaire pour faire les choses. Ce qui fait qu'il y a différents emplois du chant dans Canti. Il y a des moments où c'est un mode d'expression assez spécifique, et du coup celui ou celle qui chante est en mouvement, mais dans des choses relativement minimales. Et puis il y a des moments où on est dans un registre plus populaire, des chansons à danser, etc., qui là, pour le coup, admettent un traitement plus rustique, moins sophistiqué, moins maîtrisé aussi. Et dans ces cas-là, on peut vraiment danser et chanter en même temps.
Par rapport à votre danse, vis-à-vis de ce que j'ai pu visionner, je trouve qu'il y a un côté aérien, élégant, je dirais même gracieux. Il y a quelque chose qui, je dirais, est très doux et très apaisant dans votre danse.
L'élégance, c'est pas quelque chose que je recherche, mais quand même, quand elle survient, pour moi, c'est le signe de quelque chose qui se tient. Et même si, par exemple, dans Canti, il y a des points de départ qui ne sont pas ni paisibles ni doux, comme la cohabitation de la lutte et de l'étreinte, pour autant, je sais que finalement, ce travail dans son ensemble, il repose dans quelque chose qui est assez paisible. Voilà.
J'ai vu que vous pouviez danser un peu partout, in situ, dans des monuments, dans des musées ou dans des théâtres. Alors ici, vous êtes dans une chapelle qui est devenue un lieu de représentation, et un lieu en plus qui est très marqué, puisqu'il y a pas mal de fantômes qui rôdent dans la chapelle des Pénitents Blancs grâce au festival et grâce aux hivernales. Alors la chapelle des Pénitents Blancs, déjà au niveau du plateau et puis au niveau de l'acoustique, qu'est-ce que ça donne ?
Alors au niveau de l'acoustique, une acoustique très riche, comme la plupart des édifices religieux en pierre. Ce qui est intéressant du point de vue harmonique, puisque pour tout ce qui est polyphonique dans notre travail, on va dire que ça va sonner particulièrement bien. La difficulté, ça peut être l'excès de réverbération qui fait qu'on n'a pas une définition très nette sur des parties où on pourrait en avoir besoin. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler quand on met au point la balance. Et après, pour ce qui est de l'espace, ça dont vous parliez, ben c'est un espace forcément très singulier, que moi je trouve très beau, notamment parce que les proportions de la chapelle ne sont pas banales. C'est-à-dire que finalement, de mur à mur, exception faite du chœur qui sert pour la scène maintenant, on a quelque chose d'assez carré. Et bien ça, par exemple, c'est une proportion que je trouve élégante. Voilà.
Et est-ce que vous êtes marqué par l'esprit du lieu ?
Alors, l'esprit du lieu, pour ce qui concerne les hivernales, j'en suis pas familier parce que j'ai jamais assisté à une représentation ici. Donc, je découvre les lieux à cette occasion. Par l'esprit du lieu dans sa fonction religieuse d'antan, je peux dire que ça m'est présent à cause de cette nature de volume et de matériaux, mais j'y pense pas.
Pour revenir à l'idée de communauté, parler de la communauté dans une époque où on a l'impression que chaque personne s'individualise, s'isole de plus en plus, est-ce que c'est une manière justement de parler de notre époque ou de réagir par rapport aux tendances actuelles ?
Je trouve ça très vrai ce que vous venez de dire sur l'époque. C'est pas une manière de réagir à ça, mais en revanche, c'est une nécessité du travail d'établir beaucoup de contacts les uns avec les autres. Premièrement parce que on est un effectif pluridisciplinaire. Et donc, celui qui vient du chant au moment où il danse, il a besoin de beaucoup de contacts et d'appui du collectif pour être confiant dans ce qu'il fait et puis aussi simplement oui, pour trouver des appuis pour le faire. Et c'est la même chose à l'inverse quand on chante pour ceux qui viennent plus de la danse. Donc ça, c'est une nécessité de contact qui crée du lien et qui fait exister la communauté. C'est la première chose. Et la deuxième, c'est l'écriture qui a fait ça. C'est-à-dire que on est un groupe de quatre personnes, trois hommes, une femme, danseurs et chanteurs, instrumentistes. On arrive dans l'espace et ensemble, on fait des choses, on compose des choses. Mais c'est ensemble. C'est pas les uns à côté des autres, les uns détachés des autres ou les uns contre les autres. C'est le travail qui nous a conduits là. Mais cette réalité-là, elle est très riche à éprouver. Et par exemple, il y a un moment de contact entre nous qui fait référence au troupeau de moutons. Et je leur disais, moi j'habite à Arles où on a encore la transhumance qui passe simplement pour la mémoire de ce que c'était. Évidemment que ça n'a plus rien d'une réalité. Mais je leur disais, qu'est-ce que ça doit être fort pour un mouton de se sentir appartenir à un troupeau, dans ce contact, dans cette chaleur, dans cette amplitude de mouvement. Et voilà, ça c'est une expérience communautaire à laquelle on n'a pas accès, mais qu'on peut un peu pressentir. En fait, c'est fort pour nous d'essayer de nouer ça entre nous ou de renouer avec ça, de ce que c'est de se rapprocher, d'être ensemble, d'établir du contact, de se toucher dans un environnement où, effectivement, on le fait très peu et même de moins en moins.
Bon séjour à Avignon.
Merci et merci de votre interview.